Bon, Friedman était contre l'euro pour d'autres raisons, mais les principes fondamentaux de toute la politique européenne, les traités, il aurait pu les écrire. Vraiment, il aurait pu les écrire. C'est absolument sidérant. Et donc, à partir de ce moment-là, les traditions critiques marxistes, keynésiennes, vont disparaître de l'université. Elles ne vont plus être enseignées. Et donc, évidemment, cet intruisme, elles ne vont plus être connues. Et donc, on va produire des générations d'ignorants, et qui sont actuellement au pouvoir, évidemment, qui ne sont plus capables de raisonner autrement qu'en termes de marché. Ensuite, ils peuvent avoir une conscience sociale plus ou moins importante qui vont rechercher des ajustements. Mais intellectuellement, ils ne sont pas capables de raisonner autrement qu'en termes de marché.
Alors, c'est à eux qu'on va s'adresser maintenant. C'est à eux qu'on va s'adresser en leur disant il y a des alternatives, et il y en a eu. Il y a un certain nombre de penseurs de l'économie qui ont quand même aujourd'hui des suiveurs, des enfants, je pense à Krugman ou à Stiglitz, ou des gens comme ça, parce qu'on va parler de Keynes, de Maynard Keynes, dont la cote remonte, puis redescend, et puis remonte et redescend, mais en tout cas dont les idées ne sont pas l'ordre du jour encore aujourd'hui chez nous, à nouveau, mais qui l'ont été. Alors, est-ce que vous pouvez, après avoir évoqué le libéralisme issu d'une trahison d'Adam Smith, qu'est-ce qu'on appelle le keynésianisme ?
Oui, l'histoire de John Maynard Keynes est très intéressante. D'abord, c'était un génie. Il publie très jeune une thèse sur les probabilités, qui a fait autorité pendant longtemps. Et c'était aussi un économiste. Son père était économiste. Il devient économiste et il est économiste libéral. Mais comme il est extrêmement intelligent, il observe très attentivement ce qui se passe autour de lui. Et lorsque la crise de 1929 éclate, et il a à peu près 45 ans à ce moment-là, il se rend compte que la théorie libérale ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il voit autour de lui les entreprises qui baissent les salaires, conformément à la doctrine libérale. Il voit les gouvernements, ça nous rappelle des choses, qui baissent les dépenses publiques. Et le résultat de tout ça, c'est que la récession s'aggrave. La crise est de pire en pire, année après année, alors que, selon la théorie libérale, face à une crise, il faut baisser les dépenses, baisser les salaires. Et là, Keynes, effectivement, va être une révolution copernicienne dans la science économique en disant « Ce qui est valable pour une entreprise n'est pas valable pour toutes les entreprises. Si une entreprise est la seule à baisser les salaires, elle va gagner des parts de marché et éventuellement, elle arrivera à redresser ses profits. » Mais si toutes les entreprises baissent leurs salaires, évidemment, les consommateurs n'ont plus d'argent. Et donc, ils ne peuvent plus acheter. Et donc, les entreprises font faillite les unes après les autres. Et c'est exactement ce qui se passe en Grèce, par exemple, depuis 5 ans maintenant. À force de diminuer les salaires et les dépenses publiques, la misère s'étend dans le pays, ce qui est évidemment inacceptable en soi, mais ce qui en plus, évidemment, est un problème économique puisque les gens ne peuvent plus consommer. Et donc, en fait, la misère...
Ce qui arrive en ce moment à l'Espagne, au Portugal, à l'Irlande, l'Italie arrive et puis on suit le cortège.
Voilà, on va bientôt y arriver nous aussi. Enfin, on a déjà bien commencé. Et donc, la misère des uns fait la misère des autres. Et Keynes nous dit à ce moment-là, il y a un acteur économique qui peut permettre de sortir de la crise, il y en a un seul, finalement, c'est l'État. Parce que l'État... Lui a la capacité d'emprunter, il a la capacité d'investir, il a la capacité de dépenser. Et même, nous dit Keynes, il a la capacité aussi de retourner les anticipations des dirigeants d'entreprise. C'est-à-dire que si l'État est capable de redonner du sens à l'avenir, d'investir, etc., les entreprises qui jusque-là licenciaient se disaient « Ben non, finalement, peut-être que demain il y aura de la demande, peut-être que je ferai mieux d'embaucher, voire même d'investir moi aussi, même avant les autres, pour développer mes capacités de production, avoir de nouveaux produits, etc. etc. » Mais le message fondamental de Keynes n'est pas là aussi, la lecture en a été très simplifiée, ce n'est pas une défense de l'État bête et méchante. C'est vraiment de dire, le marché par lui-même n'assure pas le plein emploi. En fait, il n'y a aucune raison pour qu'une économie de marché assure à chacun un emploi. Keynes nous dit, l'économie peut très bien marcher avec plein de chômage. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une situation, et en fait, c'est la situation de la France depuis 40 ans. C'est-à-dire que l'économie fonctionne mal, mais elle fonctionne, les entreprises tournent, il y a des gens qui gagnent de l'argent, etc., mais simplement, si on peut dire, il y a des millions de gens qui sont laissés sur le côté.
Alors Gilles Ravot, ce que vous nous dites déjà, là on va continuer avec nos autres penseurs de l'économie, ce que vous nous dites déjà, c'est que entre le libéralisme que vous avez décrit dans une première partie, dont le chômage est un des effets, et le keynésianisme que vous venez de décrire, on voit tout de suite que choisir le libéralisme, c'est choisir le chômage. Mmh. Et que, contrairement à ce qu'on dit le chômage, on n'y peut rien, on a tout essayé, on va tout faire, etc. C'est faux. Si on choisit, et c'est un choix idéologique, l'économie